Merci beaucoup, Pierre-Michel, pour cette présentation et merci surtout pour ton invitation. Donc, tu as choisi un plan régressif et donc on finit par l'époque la plus ancienne. Alors, j'espère arriver à susciter tout de même votre intérêt dans la demi-heure qui vient, en partant finalement du problème tel qu'il a été travaillé pendant une grande partie de la journée, c'est-à-dire du problème dans sa conception contemporaine. Et mon point de départ, c'est en 1954, les annales de l'École normale supérieure de Pise, en Italie, qui publie le texte d'une conférence de l'historien d'art suisse Josef Gantner, qui est intitulée « Il problema del non finito in Leonardo, Michelangelo et Rodin ». Et Gantner, qui est en fait un héritier de la tradition baloise qui avait débuté avec Jacob Burckhardt, qui est un élève de Wölfflin, revient dans cette conférence sur une controverse qui venait de l'opposer à Benedetto Croce à propos de la catégorie du non finito. Et justement, dans une conférence antérieure, Gantner avait proposé de distinguer les œuvres achevées, finite, et les œuvres inachevées, non finite, à partir d'une conception matérielle du travail artistique. Or, Croce avait répondu dans les Quaderni della Critica, le petit extrait que vous avez, qu'il n'est pas vrai que l'inachevé, le non finito, existe. Si les œuvres dont on parle charment l'imagination et produisent un plaisir esthétique, elles sont achevées et parfaites. Finite et perfette. Dans la perspective de Croce, vous le voyez, l'achèvement est d'ordre esthétique et non historique, selon les termes de Gantner, qui, lui, défend la possibilité d'une distinction entre achèvement au sens esthétique, la perfection, et achèvement au sens historique, le fait que l'œuvre soit arrivée au terme de son processus créatif du point de vue matériel. Pour rendre compte de cette distinction, Gantner propose une reconstruction historique. Il est lui-même l'auteur d'un livre consacré à Rodin et Michel-Ange, et il remonte de l'art du XIXe siècle vers le XVIe siècle et élargit dans sa conférence la perspective de Michel-Ange vers Léonard de Vinci pour parvenir à décrire l'origine intellectuelle du concept de non finito, qui est ainsi replacé au cœur de l'art italien renaissant. Cette situation historiographique est essentiel pour notre propos parce qu'il nous faut aujourd'hui aussi travailler en remontant le fil de cette histoire, depuis les coordonnées du débat historico-esthétique au milieu du XXe siècle, vers l'Italie des années 1500, en ne cherchant pas seulement à comprendre les origines intellectuelles du concept de non finito, mais en confrontant ce dernier à un univers de pratiques sociales qui permettent d'en éclairer la genèse. Car si Gantner opposait une lecture historique à l'esthétisme crocien, qui considérait qu'une œuvre était toujours en puissance et que si l'inachèvement pouvait produire un effet esthétique, inversement, l'achèvement était toujours temporaire pour Croce, suspendu au bon vouloir de l'artiste qui pouvait reprendre son œuvre. Cette lecture, entre guillemets, historique de Gantner ne nous apparaît pas moins aujourd'hui comme tout à fait idéaliste. Idéaliste parce que Gantner cherche à saisir le moment où la catégorie de non finito devient pertinente pour décrire une œuvre, c'est-à-dire le moment où la catégorie est revêtue d'une forme d'intentionnalité, pourrait-on dire, et qu'elle n'est plus seulement le résultat accidentel d'un aléa dans la biographie de l'auteur. Mais cette recherche, on le verra, Gantner l'amène uniquement dans des sources qu'on pourrait considérer comme des sources critiques ou des sources intellectuelles. L'analyse de Gantner ramène à la figure de Michel-Ange qui domine la bibliographie sur le non finito, mais il apparaît clairement que cette position dominante, qui est liée aux fameuses sculptures inachevées de Michel-Ange, est le résultat d'une construction historique rétrospective, une construction, on le sait, du XIXe siècle, bien plus que de la Renaissance. Et la perception de Michel-Ange qui va de Stendhal à Rodin modifie profondément le regard sur cet inachèvement. Là, je fais écho à ce qu'Antoinette Lenormand vient de présenter. Et cette perception du non finito, qui donne une sorte de lecture positive, une sorte de lecture créatrice, où le non finito évoquerait la puissance artistique qui serait toujours en acte, est effectivement une lecture extrêmement décalée par rapport à la Renaissance. Et vous pouvez consulter sur ce point les travaux de Sarah Vitacca une thèse soutenue l'année dernière sur la réception de Michel-Ange au XIXe siècle, et puis un article sur le récit de l'inachèvement, la réception du non finito de Michel-Ange à la fin du XIXe siècle. Or, justement, il faut garder à l'esprit le degré de torsion que cette vision du XIXe siècle imprime à notre propre saisie du problème. C'est-à-dire que si nous ne pouvons plus regarder aujourd'hui les œuvres inachevées de Michel-Ange et globalement du passé qu'à travers le prisme, par exemple, de Rodin, pour autant, il nous faut constater l'écart entre cette perception du XIXe siècle et celle que proposent les sources du XVIe siècle, à commencer par les vies de Vasari, qui sont souvent le point de départ incontournable de toute réflexion sur ce sujet. Alors si par exemple on observe la très longue vie de Michel-Ange, qui est le point d'orgue en fait des Vite de Vasari, on voit que la question du non finito n'y est pas vraiment thématisée, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, et c'est même plutôt l'inverse, c'est lorsque le terme de finito apparaît qu'il y a une valorisation par Vasari. Par exemple, une Madone de très grande qualité, réalisée pour le Florentin Agnolo Doni, est considérée par Vasari, parmi les rares tableaux de Michel-Ange conservés, comme, dit-il, la più finita e la più bella che si trovi. Donc, on voit bien ici l'occurrence du terme de finition dans ce contexte positif. L'achèvement, pour lui, est clairement esthétique, au sens le plus fort, mais il est aussi mécanique, parce que la phrase qui suit immédiatement cette phrase, la più finita, la più bella, reprend en disant finita che la fu, c'est-à-dire une fois achevée. Et en fait, à trois mots d'écart, on voit à la fois le terme finita employé pour désigner la beauté esthétique et le terme employé pour désigner la finition temporelle, son achèvement et le fait qu'il passe à l'œuvre suivante. On voit bien que pour Vasari, l'achèvement est une valeur essentielle aussi bien dans sa conception du travail que dans sa conception de la beauté. Et quelques pages plus loin, lorsque Vasari parle du Moïse de Michel-Ange et de sa perfection, il recourt au même vocabulaire, il dit du Moïse que l'œuvre est le Moïse est talmente finito, c'est-à-dire tellement achevé au sens tellement accompli, tellement réussi. En fait, dans la vie de Michel-Ange par Vasari, il y a une seule expression un peu équivoque, un peu dissonante. Dans la version de 1550, puisque vous ne savez pas que Vasari en fait a écrit ses Vite en deux fois, une grande édition de 1550 et un remaniement de 1568 qui est un remaniement plus ou moins approfondi selon les biographies. Dans la version de 1550 de la vie de Michel-Ange, Vasari fait de Michel-Ange le point d'arrivée de la tradition florentine, en disant que Florence avait déjà montré la grandeur de son art par Cimabue, Giotto, Donatello, Brunelleschi, Léonard, de telle sorte, dit toujours Vasari, qu'on ne pouvait pas ne pas croire qu'avec le temps ne surgisse un esprit ou un génie, là il dit ingenio, qui nous montrerait avec perfection l'infinité de la fin, l'infinito della fine. Alors cette sorte d'oxymore est sans doute particulièrement adaptée à Michel-Ange et à son art, et en particulier à sa sculpture, puisqu'elle compte un certain nombre d'œuvres inachevées. Mais il est très intéressant de constater que Vasari ne développe pas cette intuition de l'infinito della fine, et il n'explique pas ce qu'il veut dire par là. Mais encore plus remarquable, dans la deuxième édition des Vite, et en 1568, en fait, Vasari supprime la fin de la phrase, il retire cette expression. Alors, on peut voir là le signe d'une attention au problème, c'est-à-dire que le non finito, même s'il a été valorisé par le XIXe siècle et ses suites, n'est pas tout à fait une invention contemporaine. Il se dessine à l'horizon du texte vasarien, mais il se dessine davantage comme un problème ouvert que comme une esthétique, et je pense qu'il y a peut-être là l'explication de la rature de Vasari. Si on cherche d'autres usages du terme dans le reste de l'œuvre de Vasari, on voit bien que partout, c'est le finito qui a une valeur positive en conjuguant la finition au sens artisanal, temporel et esthétique. Les choses qui sont non finite sont signalées comme bizarres, rares, étranges, à moins qu'il s'agisse du résultat des circonstances, comme la mort. Mais dans ce cas, les œuvres ont vocation à être achevées par d'autres, et c'est le cas célèbre, par exemple, de la chapelle Brancacci. En réalité, la seule vraie exception, le seul moment où l'inachèvement est développé de façon spécifique par Vasari, ne concerne pas Michel-Ange, mais Léonard de Vinci. La véritable matrice discursive du non finito, la figure créatrice pour laquelle il est impossible de contourner indéfiniment le problème, c'est Léonard, donc une génération avant Michel-Ange, et on sait que Léonard a laissé un nombre significatif d'œuvres inachevées, ce que Vasari savait très bien aussi. Alors, c'est tout d'abord le problème posé par la scène de Santa Maria delle Grazie à Milan, où on sait que Léonard a voulu expérimenter une nouvelle technique de fresque qui s'est révélée impropre et qui a conduit à une détérioration rapide de l'œuvre. Mais Léonard, avant même cette détérioration, n'avait déjà pas achevé cette œuvre, laissant les traits du visage du Christ en partie indéterminés. Et Vasari écrit, j'utilise ici la traduction d'André Chastel, « Léonard peignit à Milan, pour les Dominicains de Sainte-Marie-des-Grâces, une scène d'une merveilleuse beauté. Il donna au visage des apôtres tant de majesté et de beauté qu'il dut laisser inachevé celui du Christ. » Alors, « inachevé », traduit Chastel, hein, l'italien dit que « quella del Cristo lascio imperfetta », donc vous voyez ce jeu entre la perfection et l'achèvement. Pourquoi Léonard l'a laissé inachevé? Car il ne pensait pas pouvoir lui conférer l'aspect divin, céleste, qui lui convenait. Néanmoins, tenue pour complète, rimanendo così per finita, donc Chastel dit complète mais achevée, l'œuvre a toujours été en grande vénération auprès des Milanais et aussi des étrangers. Alors, on voit ici se dessiner une argumentation qui, loin de valoriser le non finito, cherche plutôt à l'excuser. D'abord par un argument qui est aux limites de l'esthétique et du théologique sur la représentation du Christ. C'est intéressant parce qu'il ne faut pas oublier que Vasari écrit au moment du Concile de Trente qui légifère sur les images et leur légitimité. Et la question de la représentation de la personne du Christ ici n'est pas tout à fait anodine. Et puis surtout, Vasari ajoute le fait que l'œuvre a été considérée comme achevée finalement. Alors, là, on est dans une situation, si vous voulez, presque freudienne. Enfin, ça rappelle le chaudron, c'est-à-dire que Vasari dit à la fois que Léonard avait une bonne raison de ne pas achever l'œuvre, mais qu'en fait, elle est achevée, ou qu'en tout cas, elle a été considérée comme ça. Alors, il me semble que ce tremblement dans le texte de Vasari témoigne d'un embarras, précisément face au non finito délibéré de Léonard. Alors, pourquoi? Pour le comprendre, il faut sans doute conduire l'enquête dans une nouvelle direction en cherchant à comprendre, dans les pratiques artistiques concrètes de l'époque de Léonard, ce que pouvait signifier l'achèvement, ce que pouvait signifier cette notion de finito. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, la limite du débat entre Gantner et Croce, c'est que les appréciations portées sur les catégories de finito et de non finito, qu'on valorise l'un ou l'autre, sont toujours inscrites dans une réflexion basée sur des sources littéraires ou critiques, qu'elles soient historiques ou esthétiques, d'où la place centrale de Vasari. Mais c'est en même temps oublier que le travail de Vasari, de même que l'activité de Léonard, s'inscrivent dans un monde de l'art, au sens de Howard Baker, qui est peuplé de bien d'autres discours, de bien d'autres acteurs, et qu'au sein de ce monde, le terme de finito a un sens précis. Avant d'appartenir au monde de la critique ou des chroniqueurs, le finito appartient d'abord au monde de la relation contractuelle unissant le peintre à son commanditaire, comme le montrent les très nombreux contrats qui sont conservés dans les archives italiennes pour cette époque. Et c'est à la lumière de ces textes, de leur vocabulaire, des formes de négociation, de coopération dont ils sont la traduction, qu'il faut comprendre la centralité de la catégorie de finito dans son sens le plus propre. À partir du moment où la consommation de peinture se développe dans l'Italie de la fin du XIIIe siècle, la production est entièrement organisée autour de la commande. Il n'y a à peu près, pour cette époque, pas de production qu'on appelle on-spec, c'est-à-dire destinée à un marché et réalisée par avance. Si le monde de l'art appartient d'une manière ou d'une autre à la sphère des relations marchandes pour la fin du Moyen-Âge, c'est comme marché du travail artistique. Et quand une œuvre est commandée, la procédure veut qu'un contrat soit réalisé, le plus souvent, devant un notaire. Le contrat est donc l'outil de négociation, l'outil d'ajustement entre l'artiste et le commanditaire, et il comporte systématiquement un certain nombre de dispositions participant pleinement à l'activité créatrice. En effet, dans leur variété, les contrats précisent toujours le sujet, avec plus ou moins de détails, le prix et la date de livraison ou le temps de réalisation de l'œuvre. Et ces aspects sont cruciaux dans la construction d'un échange qui est à la fois artistique et économique entre l'artiste et le commanditaire. Et c'est ici que l'achèvement, si vous voulez, donne tout son sens à cette relation qui est constitutive de ce qu'on peut appeler un premier monde de l'art. Un monde de l'art, j'insiste sur ce point, aux règles qui sont très différentes de celles qui vont se mettre en place entre le XVIe et le XVIIIe siècle et qui vont aboutir ensuite au marché de l'art au sens moderne. Cet achèvement peut être désigné uniquement par un terme, par une date. Il peut parfois qualifier un état de l'œuvre et parfois, justement, on dit que l'œuvre devra être complète, compiuta, ou achevée, finita. Alors, j'ai pris un seul exemple de contrat parce qu'on n'a pas énormément de temps, mais c'est une documentation qui est intéressante. Un contrat qui date de 1445 et qui concerne une œuvre très célèbre, hein, quelques années avant la naissance de Léonard, puisque la Fraternité de la Miséricorde de Borgo San Sepolcro commande une Vierge de Miséricorde monumentale à Piero della Francesca en lui versant une avance et en précisant que le reste devait être payé à l'achèvement du tableau. Alors, je n'ai pas le temps de lire tout le contrat ici, mais vous voyez sur ce contrat qu'à la fin du texte, il est dit « Pour tout cela, ils ont convenu de payer 150 florins au cours de 5 lires, 5 sous le florin. Sur cette somme, ils se sont engagés à lui donner à sa demande 50 florins dès maintenant, donc en fait un tiers au moment de la commande, ce qui est assez courant, 50 florins dès maintenant et le solde à l'achèvement du panneau. Residuum, finita, dicta, tabula. » Élodie Pierrot s'est engagée à réaliser le panneau, le peindre, le décorer, l'assembler dans les mêmes dimensions, la même forme que le panneau actuel, à le livrer entièrement assemblé et installé dans un délai de 3 ans. Et puis, à ce qu'aucun autre peintre que Pierrot lui-même ne puisse tenir le pinceau, ce qui pose d'autres questions d'autographie. Donc, vous voyez que la question de la finition, du finito, a un sens très concret et que ce terme est en usage depuis la fin du XIIIe, début du XIVe siècle, jusqu'au courant du XVIe et du XVIIe siècle, dans des contrats au caractère très répétitif, qui sont parfois d'ailleurs assortis de sanctions, ce qui rappelle aussi que ce n'est pas parce qu'il y a des délais qu'ils étaient toujours respectés. L'industrie de la peinture, c'est comme l'industrie du bâtiment, si vous voulez, c'est-à-dire que c'est toujours une gestion du retard, et malheureusement, on a peu de traces de contentieux. Mais de temps en temps, on arrive à en saisir. Hein. Milanesi a édité un document de 1465, que j'aime beaucoup, qui est un arbitrage rendu par Antonio Di Tommaso, un peintre, dans un conflit entre un de ses collègues et un client. Son collègue, qui s'appelle Giosuè di Santi di Gregori, avait, par contrat, accepté de peindre 2 cassoni. Les cassoni, vous savez, c'est ces grands coffres toscans de la fin du Moyen-Âge et de la Renaissance qui sont historiés. Il avait accepté de peindre 2 cassoni avec l'histoire de Thésée pour le mois de mars 65. Et en fait, au mois de mars, il a à peine commencé le travail. Et en plus, au lieu de peindre l'histoire de Thésée, il peint l'histoire de Troie. Alors, le commanditaire va se plaindre. Et puis, il y a une procédure d'arbitrage qui est prévue. Et un peintre qui arbitre et qui condamne justement son collègue à finir. Et là, il insiste sur le mot « finir » le travail en lui donnant comme délai jusqu'au mois de septembre. Et si le travail n'est pas achevé au mois de septembre, alors le peintre doit rembourser tous ses frais et en plus payer la réalisation de l'œuvre à un autre peintre pour le commanditaire. Donc vous voyez que l'achèvement de l'œuvre, c'est ici un enjeu majeur et que cet enjeu majeur, il est garanti par le contrat. L'économie du travail artistique, à la fin du Moyen-Âge, est une économie du « finito », dans laquelle, en théorie, il n'y a pas vraiment de place pour le non finito. On retrouve d'ailleurs dans le langage notarié des éléments qui montrent que sur le jeu du sens propre et figuré dans le lexique de l'achèvement, les polysémies existent aussi bien que chez les chroniqueurs. Par exemple, ici, un contrat pour une statue qui est commandée par le Duomo de Sienne. Et vous voyez que cette statue, donc quam statuam teneatur et debeat facere in perfectione, donc qu'il, c'est le sculpteur, que le sculpteur soit tenu et doive faire la statue à la perfection. Et ce qui m'intéresse le plus, c'est être ilam dare finitam et perfectam, et qui doivent la donner finie et parfaite. Et alors, c'est intéressant parce que vous voyez, c'est exactement les mêmes termes, et c'est encore les termes qui vont être utilisés par Gantner et Croce. Et c'est dans ce système économique et social que Michel-Ange et Léonard ont été formés, et c'est dans ce système qu'ils travaillent. Pour eux, comme pour les autres peintres, pesait la nécessité d'un achèvement. J'ai pris deux exemples hein, chez l'un et l'autre pour vous montrer qu'eux aussi connaissaient ce régime du finito. Ça, c'est le contrat qui commande le David de Michel-Ange. Hein. Donc les seigneurs, i signori, c'est les seigneurs de la seigneurie de Florence. Ils ont commandé à Michel-Ange « Unam figuram unius David », donc une statue de David. Et cette statue de David, là aussi, elle fait l'objet d'une avance, mais la fin de l'argent, c'est la dernière ligne, ne sera versée que lorsque la statue sera finie, « postquam finita fuerit predicta, eidem Michelangelo solvere reliquam mercedem », à ce moment-là, on lui paiera le reliquat de son salaire. Léonard signe exactement le même genre de contrat. Ça, c'est un contrat de 1481. Et vous voyez que c'est une tavola data dipingere a Leonardo, donc un tableau qui a été donné à peindre à Léonard par l'église San Donato a Scopeto. Et ce tableau, cette table, la quale deba avere compiuta infra mesi 24 ou al più infra mesi 30. Donc, lequel tableau doit être achevé en 24 mois ou au plus en 30 mois. Et si jamais il ne l'a pas fini, après il y a toute une série de clauses. Donc vous voyez, alors, ce texte, c'est un des rares textes où on dit qu'il faut l'achever en 2 ans, mais qu'il a le droit de dépassement de 6 mois. C'est-à-dire qu'on prévoit déjà que Léonard va dépasser, ce qui est raisonnable. Mais vous voyez que ces pratiques restent en vigueur tout au long du XVIe siècle et qu'elles forment finalement la toile de fond du propos de Vasari. Et Vasari lui-même était peintre, et il connaissait très bien cet univers. Un univers dans lequel finito, ça veut d'abord dire la livraison d'un travail. Et on voit bien pourquoi, pour Vasari, du coup, le non finito est un problème, parce que c'est une transgression majeure des règles de l'art, sur laquelle il faut maintenant s'interroger. Vasari, je l'ai dit, affronte le sujet dans la vie de Léonard, là où précisément il ne pouvait pas l'éviter. Il évoque le problème pour la scène et il le rencontre à nouveau à propos du cheval de bronze monumental qui était destiné au duc de Milan, Ludovic le Mort. Et vous avez là un extrait de la vie de Léonard dans son état de 1550. Donc Léonard proposa au duc, pour perpétuer son image, de faire un cheval de bronze. Il le commença, le dressa si grand qu'il ne put jamais l'achever. Les jugements humains sont divers et souvent méchants par envie. On a soutenu que Léonard l'avait commencé comme tant d'autres œuvres, sans intention de le finir. Le comincia se perché non si finisse. Ça, c'est la version de 1550. Et vous voyez que là, on considère que Léonard a fait exprès. Vasari raconte, et d'ailleurs il raconte que les gens de l'époque ont jugé ça négativement et qu'ils ont considéré qu'il avait fait exprès. Mais cette question du non finito préoccupe tout de même Vasari à un point que dans la version de 1568, il rajoute un paragraphe juste derrière ce passage. Et dans ce paragraphe, il dit « Ce jugement, donc le jugement négatif des gens sur l'inachèvement, a pu être inspiré par tant d'œuvres restées inachevées. En réalité, il est permis de penser qu'un esprit de cette grandeur et de cette qualité supérieure était paralysé par l'excès de son ambition. À vouloir toujours excellence après excellence, perfection après perfection, l'œuvre était retardée par le désir, comme le dit Pétrarque. » Et cet ajout de Vasari est un élément crucial dans la construction d'un nouveau discours à la fois psychologique et esthétique sur la création artistique et sur le non finito. C'est, si vous voulez, le moment où le non finito devient l'expression potentielle de l'aspiration la plus haute de l'art, et le moment aussi, pour rejoindre la présentation de Jérôme Dokic ce matin, où finalement le jugement d'achèvement devient l'attribut de l'artiste. Évidemment, la réécriture de ce passage entre 1500 et 1568 est un signe, le signe que ce problème travaille Vasari et qui correspond, au fond, à quelque chose de nouveau dans la création artistique. Mais il n'empêche que pour Vasari, la transgression est toujours sensible et qu'il lui reste toujours à l'expliquer. Il l'explique dans des termes qui sont psychologiques et esthétiques, mais il nous appartient aussi, pour finir, d'en explorer les mécanismes sociologiques. Et pour cela, on peut se tourner vers un dernier exemple que j'emprunte à nouveau à Léonard, celui de la Sainte-Anne du Louvre, qui a fait l'objet d'une étude approfondie à l'occasion de la magnifique restauration de l'œuvre par le C2RMF et d'une publication remarquable du Louvre en 2012. L'étude scientifique a permis de mettre en évidence ce qu'on devinait déjà à travers les dessins et les copies progressives de cette œuvre, qui a été en chantier en fait dans l'atelier de Léonard pendant presque 20 ans, c'est-à-dire que l'œuvre a été faite, défaite, refaite, que c'est l'idée même d'achèvement qui a été remise en cause par la pratique picturale de Léonard, dans un sens assez proche de l'idéalisme de Croce, au fond, ou de la figure de Fraunhofer dans le chef-d'œuvre inconnu. Léonard semble en fait avoir achevé le tableau une première fois à la fin des années 1500, et puis il l'a défait, et à sa mort, presque 10 ans plus tard, il n'était toujours pas achevé, même s'il est difficile de savoir aujourd'hui dans quelle mesure exactement la Sainte-Anne était inachevée. Et il faut citer un témoignage extraordinaire, l'épigramme de l'humaniste et diplomate grec Janus Lascaris à propos de la Sainte-Anne en 1527, donc 8 ans après la mort de Léonard. Et Lascaris écrit, en parlant à la Sainte-Anne, « Afin que des anciens en ta perfection, tu ne vainques les célèbres tableaux, le grand Vinci, ton peintre, Anne, s'en est allé. Mais plus que la Vénus Capelle n'acheva, c'est toi que la postérité, admirant tes zélés, vénérera. » Et ce texte est une pièce importante de notre puzzle, parce que c'est peut-être la première valorisation de l'inachèvement artistique depuis l'Antiquité et l'exemple d'appel auquel Pierre-Michel faisait référence aussi tout à l'heure. On voit que Lascaris reprend ici le problème de la perfection empêchée, qui n'est pas très éloigné d'ailleurs de l'argument sur le visage du Christ. Léonard laisse inachever l'œuvre par sa mort, mais par une sorte de piété qui ne serait plus une piété chrétienne, mais une piété par rapport aux anciens. Et puis, il évoque le modèle antique de l'inachèvement, la Vénus d'Appel, qui avait déjà été mentionné par un autre commentateur sur la Sainte-Anne, Agostino Vespucci. Et là, on voit bien le palimpseste imaginaire que compose la Renaissance. Mais enfin et surtout, Lascaris ouvre la porte à l'idée d'une admiration à venir, d'une admiration de la postérité, qui ne serait pas affectée par l'inachèvement. En somme, à partir de Léonard, le non finito devient non seulement possible, intentionnellement et artisanalement, mais il devient pensable, la Sainte-Anne en fournissant le paradigme. Mais cette émergence, qui fait volontairement contraste avec le finito des contrats, n'est pas un éclair de génie de Léonard ou une pathologie individuelle, elle répond à des conditions sociales de la création tout à fait particulières que la Sainte-Anne permet de décrire. En effet, l'une des singularités de cette œuvre est qu'on ne connaît pas son destinataire. Aucun témoignage, document, lettre, commande, contrat n'a été conservé. Et Vincent de Lieuvin, en 2012, dans le catalogue publié par le Louvre, à la suite d'autres historiens de l'art, a défendu une hypothèse simple et efficace, c'est-à-dire que la Sainte-Anne n'avait pas de commanditaire ou de destinataire, car Léonard peignait l'œuvre pour lui-même, comme on soupçonne qu'il ait pu le faire à d'autres occasions. Et ce geste, consistant à détacher le travail artistique de la commande et de son calendrier, est un geste d'une portée majeure. Il contribue à rompre avec l'ordre ancien du travail pour faire de l'œuvre une fin en elle-même. Alors bien sûr, un tel geste dépend d'une position sociale, celle d'un artiste, Léonard, qui, comme Michel-Ange, vit pour l'essentiel de sa position à la cour, n'est plus soumis à la contrainte du marché artistique au sens urbain. Et Léonard, qui a été formé à la boutique de Verrocchio, qui a ouvert son propre atelier, s'est progressivement abstrait du monde de l'artisanat urbain. Cette histoire, elle a souvent été racontée, elle s'inscrit dans la construction de la figure de l'artiste moderne qui s'éloigne de la ville pour s'épanouir à la cour, selon le schéma proposé par Martin Warnke. Mais on a moins souvent remarqué que ce processus idéal correspondait à des pratiques matérielles concrètes. Le non finito n'est possible, matériellement et esthétiquement, que dans un régime de production artistique où l'objet d'art peut exister pour lui-même et n'est pas toujours vendu à l'avance. Léonard peint parfois, sans qu'on lui en ait fait la demande, de son propre mouvement, qu'on n'appelle pas encore l'inspiration, et l'achèvement ou non de ce mouvement ne dépend plus de circonstances extérieures, comme le calendrier d'un client, fût-il un prince. L'artiste devient le seul juge de l'achèvement, un achèvement qu'il peut repousser indéfiniment à son seul désir. Cette possibilité de l'inachèvement a son parallèle, le fait que les ateliers à la même époque se mettent à produire des œuvres, souvent de qualité moindre, de petite taille, on spec, donc réalisées en elles-mêmes, finies à l'avance, pourrait-on dire, indépendamment de toute commande, et qui puissent être vendues à n'importe qui, dans des foires ou dans des boutiques. C'est-à-dire que, alors qu'autrefois, l'achèvement était le cœur du processus créateur, c'est-à-dire que c'était la fin du contrat qui correspondait à la fin de l'œuvre, nous sommes face au développement d'un nouveau système de production créatrice, au sein duquel la Sainte Anne est l'exception désormais possible du non finito, dont le pendant standard est le finito anticipé d'un monde d'objets artistiques dont la commercialisation s'autonomise peu à peu. Vous voyez que l'œuvre d'art cesse d'être l'objet façonné depuis son idéation et jusqu'à sa réalisation par une interaction, interaction entre deux ou plus de personnes prises dans une relation sociale, économique, esthétique. L'œuvre devient potentiellement absolue. Elle met l'artiste face à la matière, face au temps, face à lui-même, en dehors de toute relation de commande. Et peut-être est-ce finalement seulement à partir de ce moment qu'on peut parler d'œuvre au sens moderne, c'est-à-dire un travail qui a sa fin en lui-même et qui s'effectue sans garantie préalable de trouver cette fin, justement. Je vous remercie.
Bien, merci beaucoup Étienne. Et voilà, nos régimes de création sont arrivés, chic, et même la sociologie. Voilà, c'est très bien. Merci, un historien qui couvre beaucoup de domaines et de savoirs. Oui, juste un commentaire. Il se fait tard, donc on ne va pas trop prolonger. La discussion, évidemment, va avoir lieu. Et moi, je livrerai une brève conclusion. Mais j'avais gardé en mémoire le fameux texte de Chastel, l'hybride, le fragmentaire inachevé, je crois. Et donc, j'avais saisi évidemment, le lièvre de l'inachevé ou de non finito à la Renaissance. Et tu as dit quelque chose qui est... Évidemment, il y a deux points essentiels. C'est d'une part la cour et le système de production de la ville. Et l'autre qui lui est relié, c'est qu'à la cour, les gens peuvent acquérir ou du moins sont recrutés et vivent avec une réputation qui est d'ailleurs qui déborde de la seule cour qui est internationale. Et donc, en fait, c'est une idée qui n'est pas facile à tester, mais qu'on voit à travers l'analyse de cas. Pour relier l'analyse de cas à des régimes de création, c'est l'idée que, au fond, les grands artistes qui peuvent devenir des modèles, comme disait Kant, un génie, c'est quelqu'un qui ne copie personne, mais qui, en outre, est donné en exemple pour être un modèle, mais pas à imiter, simplement pour s'inspirer de son exemple pour faire des choses. Un grand artiste bouscule peut-être... peut bousculer intégralement le cadre dans lequel il commence, où il est pris, pour le subvertir d'une certaine manière. Et donc, ces valeurs de fini, non fini, sont indexées sur la réussite de certains, surtout quand, comme Léonard de Vinci, ce sont des hommes de science. Et je me souviens du magnifique texte de Cassirer sur Vinci, qui le décrit exactement dans cette position. C'est-à-dire, quelqu'un, si vous faites des choses arbitraires comme ne pas finir quelque chose, pour que ça ne soit pas considéré comme une manifestation d'impuissance et de défectivité, il faut évidemment qu'il y ait derrière une réserve de puissance créatrice et de savoir considérable, et qui permet de faire pivoter, évidemment, l'évaluation. Et ça, c'est un point essentiel, parce que les régimes de création bougent aussi à travers la réussite de certains, et pas simplement à travers des mouvements de foule, de grands ensembles comme ça, qui font basculer un régime d'un système. Non, c'est aussi parce que effectivement des personnalités arrivent à transformer la chose. Et les deux exemples majeurs que tu as donnés, évidemment, vont dans ce sens-là. Mais je voulais juste... rebondir aussi sur le côté on-spec. Je me souviens de ce vocabulaire qu'utilisait beaucoup le très regretté Jean-Michel Montias, qui a fait des travaux absolument sensationnels sur la peinture hollandaise. Et là, le système était presque à l'envers, c'est-à-dire que le on-spec, on pouvait dire, vous le voulez plus ou moins fini, c'était presque une variable de quelle quantité d'effort je vais mettre et je vais tarifer mon tableau que je livre sur le marché hollandais de l'époque. Et si on voulait aller vers des œuvres beaucoup plus sophistiquées, il fallait les commander. Vermeer travaillait à la commande, et Vermeer, comme dit le vocabulaire, c'était un fine thriller, c'est-à-dire quelqu'un qui faisait de la peinture fine, et qui donc mettait beaucoup plus de temps et de travail pour achever quelque chose, et là, c'était à la commande. Donc, voilà, on joue sur ces variables-là de manière assez sophistiquée dans des contextes qui évoluent, mais c'est vrai qu'il y a une économie du travail qui est derrière tout ça, et une économie de la réputation et de ce qui fait exploser les cadres classiques. Ce sont plutôt des commentaires que des questions, mais... voilà, je vais tout de suite donner la parole à qui veut la prendre.